Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler du collectif des arts de la table. Alors l'art de la table, c'est vraiment une grande tendance dans notre univers déco, vous n'avez pas pu y échapper. Toutes ces jolies tables qu'on peut voir en photo, sur Instagram ou dans les magazines, qui nous inspirent, qu'on a envie de reproduire quand on reçoit, ou même au quotidien. Tous ces chefs et ces restaurants qui font attention autant au contenu qu'au contenant, et toute cette jolie vaisselle qu'on peut voir dans les boutiques, eh bien c'est tout ça que défend le collectif des arts de la table, qui a pour ambition donc de promouvoir et de valoriser la filière française des arts de la table. Grandes marques, créateurs indépendants, artisans et détaillants passionnés, ils sont tous unis d'une même voix pour faire rayonner leur savoir-faire et leurs produits, mais aussi pour vous inspirer. Tous les mois, le collectif des arts de la table vous propose une nouvelle tendance qui vous donne plein d'idées sur les matières, les couleurs et les formes du moment, et bien sûr une sélection de produits de marque française que vous pouvez donc retrouver sur leur site lesartsdelatable.fr ou sur leur compte Instagram @lesartsdelatable. Allez, place à l'épisode maintenant. Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez, si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Geza Hansen, germano-danoise. Geza est architecte d'intérieur, designer, DA, et elle a fondé The Hansen Family, une collection de meubles et objets en bois, un matériau qui lui est cher, et au design scandinave qu'elle fabrique dans l'atelier familial. Parisienne partie vivre à la campagne, elle est cofondatrice du mouvement Countryfication sur l'art de quitter la ville pour un nouveau mode de vie. Les trois acolytes à l'origine de ce projet, très tentant pour beaucoup d'entre nous, en ont même fait un livre qui vient de sortir. Bonjour Geza.
Bonjour.
Alors on est au Café Compagnon, qui est un peu le lieu dont tout le monde parle en ce moment. C'est la troisième adresse de Charles Compagnon, qui est donc restaurateur, sommelier, torréfacteur, mais aussi oui. Ton mari, on peut lui dire. Comment vous avez travaillé ensemble sur ce projet ?
On avait déjà l'habitude de travailler ensemble parce qu'on a fait le 52 ensemble. En fait, je travaille toujours avec Vincent Echalier, c'est l'architecte. Et moi, j'ai fait l'intérieur design. Pour ce projet-là, il m'a quand même donné plus de confiance qu'avant.
Hein. Ah ouais ?
Parce que la première fois qu'on a travaillé ensemble, j'avais pas carte blanche. Mais ici, j'avais vraiment carte blanche. Ça change tout. Pour une fois, j'ai compris de coucher avec son client, ça peut peut-être aider.
Quel était le brief de départ ?
Le brief de départ, c'était de faire un lieu chaud, parce que je crois après le lockdown et tout ça, et après que Paris a été très dur, Charles voulait créer un endroit un peu très cosy, protégé de la rue, et il a vu ce restaurant, parce que la rue devant, il n'y a pas de voiture, du coup c'est vraiment très protégé. Il a voulu vraiment créer un cocon doux avec des matériaux chauds. Après, moi, je commençais à travailler surtout sur le bois, parce que je trouve, bah, comme tu as dit, c'est mon matériau préféré. Et je trouve que ça chauffe tout de suite un endroit. Et en gros, tout est parti de l'encadrage en bois. Toutes les pièces sont un peu encadrées comme une image. Il y a toujours des plinthes en haut, en bas. Il y a toujours un cadre. Et après, je remplis ce cadre avec des matières. J'aime bien travailler avec des matières qui n'ont pas de couleur. Genre, qui ont des couleurs, mais c'est les matières qui font la couleur, comme la terre cuite, le marbre rouge, le lin, qui a une couleur marron. Et après, dans les assises, j'ajoute de la couleur. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Pierre Frey. C'est ma maison tissu préférée. Du coup, je trouvais ces tissus, parce qu'ils me rappellent un peu à la couleur du vin. Parce qu'en même temps qu'on a fait ce restaurant, Charles, il a acheté une vignoble, Charmeton. Et du coup, je trouvais quand couleur qui règne dans le restaurant, le bordeaux était bien. Et après, je cherchais une tissu qui fait un peu travail, un peu rough. En fait, cette tissu sur la banquette, par exemple, c'est l'envers du tissu. C'est pas la face. Comme ça, ça fait un peu plus dur, plus travail, moins noble. En fait, j'aime bien quand même les matières qui font brut.
Alors ici, on vient pour le petit-déj, le déj, le thé, l'apéro, le dernier verre. On peut travailler, enregistrer un podcast. Comment on crée un lieu cosy ? T'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut ? Tu dis, c'est le bois, les couleurs ?
Ça dépend. En fait, tu peux aussi très bien designer avec des couleurs. C'est juste, moi, je ne suis pas très fort là-dedans. En fait, j'aime bien, comme je fais mes études au Bauhaus, on était très minimaliste. Et en fait, on n'avait pas trop le droit de choisir certaines couleurs, sauf s'il y a vraiment une raison pour ça. Du coup, j'ai vraiment appris à dessiner avec des couleurs, des matériaux soi-même. Mais pour moi, c'est surtout le bois et de le contraster avec des textures chaudes. Et après, il faut un contraste aussi avec un matériau froid. Tu as toujours besoin un peu cet équilibre des contrastes en matériaux pour que ça ne t'étouffe pas.
Et c'est ça le style scandinave, c'est minimaliste et chaleureux à la fois.
Oui, exactement. Je trouve que comme je travaille au Japon, le design scandinave et le design japonais, c'est un peu mes deux influences principales. Et je trouve que les deux marchent bien ensemble parce qu'au Scandinavie, c'est exactement cette tendance du minimalisme chaud. Et je trouve le Japon ajoute à ça un peu cette technique wabi-sabi, cette philosophie wabi-sabi, qui dit que la patina d'un objet est important de le voir vieillir et que ça ajoute de la valeur. Je trouve que c'est très bien pour les femmes de 40 ans aussi. T'es un peu moins inquiète, cette iride.
Tu nous disais quelles études t'as fait. Tu as fait la mythique université du Bauhaus.
Oui, le Bauhaus, c'est vraiment un bon endroit pour faire des études parce que tu ne décides pas au début où tu veux aller. Tu peux faire un peu d'architecture, un peu de l'art, un peu de design. Tu apprends beaucoup par les ateliers et par la main. Ils essayent vraiment de retrouver cette connexion tête-main. Du coup, moi, je trouve que tu es extrêmement libre. Moi, j'ai décidé seulement après 2 ans des études de faire du design parce que je voulais être en révolution contre mes parents. Et ça n'a pas marché.
Pourquoi tu voulais être en révolution contre tes parents ?
Parce qu'ils étaient designers aussi. Je crois qu'on est enfant, on a envie de faire son propre chemin au début. Et après, je sentis, comme j'avais grandi dedans, que tout était simple autour du design. Et du coup, je suivis cette voie parce que je connaissais déjà tous les designers, toute l'histoire. J'étais sur les salons de meubles à Milan depuis j'ai 6 ans. Et du coup, c'était vraiment... Je savais tellement de choses sur ça. Et sur tous les autres sujets, c'était un peu plus dur. Peut-être pas facilité, hein, que j'ai choisi, du coup, d'être designer. Mais je sentis que c'était facile pour moi.
Où est-ce que tu as grandi, alors ?
J'ai grandi vraiment à la campagne, dans un tout petit village. J'étais, quand mes parents travaillaient tous les deux, j'étais élevée un peu par les fermiers à côté.
Dans quel pays ?
En Allemagne.
Ouais.
Et l'atelier de bois où je fais mes meubles est aussi juste à côté, dans la forêt. C'est vraiment très, très campagne, très sauvage. Et ça m'a beaucoup inspirée en tant qu'enfant aussi. Et les gens ne parlent pas beaucoup là-bas.
Et après tes études, pourquoi t'es venue en France ? Comment t'as appris à parler le français ?
J'ai pas appris. Quand j'arrivais à Paris, je parlais pas du tout français. Mais c'était grâce à Yves Mabrier. C'était le directeur du design chez Jean Nouvel à l'époque. Et j'avais envoyé toutes mes choses que je faisais à l'époque. Il m'a appelé. J'étais comme une folle de joie. Il m'a dit, tu veux pas venir à Paris faire un stage chez Jean Nouvel? Et du coup, j'ai tout laissé tomber. J'ai juste appelé mes profs pour leur dire. Je suis allée à Paris. Et mes profs ont fait en sorte que je pouvais rester à Paris très longtemps et faire mes études en distance. Ce qui était génial parce que du coup, je pouvais travailler en même temps chez Jean Nouvel. Et j'étais dans une équipe de dingue. J'étais avec... vraiment 3 designers très, très bien qui m'ont appris énormément de choses.
Ah oui, tu n'avais pas terminé tes études, en fait.
Non.
C'était pas le stage de fin d'année où
non.
Tu l'as fait en parallèle.
En fait, oui, je l'ai fait en parallèle et j'ai fini mes études en même temps. Je faisais des allers-retours à Weimar, des fois à Berlin, parce que c'est trop loin. C'était grâce à Axel Kufus, mon prof de design, que je pouvais tout faire ça en parallèle.
Et alors, c'est comment de travailler avec Jean Nouvel ? Qu'est-ce que ça t'a appris ?
Moi, je travaillais surtout avec Aurélien Barbie, c'est qui est un super designer, et avec David Toulstrup à l'époque, qui a dessiné le nos mains, et je voyais Jean de loin. On était une petite équipe de designers assez protégée, et du coup, je l'ai vu passer dans l'agence, mais c'était vraiment...
Ah, t'as jamais eu de réunion avec lui, par exemple ?
En tout cas, s'il y en avait une, j'en parlais pas. Je crois qu'il y avait une ou deux. Mais j'étais dans un coin et je ne parlais pas. Mais c'était tout ce qu'ils disaient pour les briefs des objets au début, c'était extrêmement inspirant. De commencer à réfléchir sur un objet, là, il était vraiment extrêmement fort. Je trouve qu'il est extrêmement fort de toute façon.
Et alors après, tu as créé ta marque, Janssen Family. Pourquoi tu as voulu créer ta marque alors que tu aurais pu avoir peut-être une très belle carrière avec Jean Nouvel ou avec d'autres ?
J'ai décidé de quitter l'agence parce que j'avais vraiment l'impression que si je veux monter quelque chose moi-même, il faut que je commence maintenant. Parce qu'après, on peut aussi très bien rester dans des grandes agences très longtemps et de jamais travailler pour soi-même. Et je trouvais aussi, quand on travaille pour des grandes entreprises en design, tu as toujours besoin genre, des appareils énormes pour fabriquer quelque chose. Et avec les boîtes, on n'a pas besoin. Tu as juste besoin de petits ateliers et tu peux faire des trucs incroyables. Et comme je grandis dans l'atelier de mon grand-père, je me suis dit, mais en fait, je veux juste reconstruire cette histoire et travailler avec mes parents. Là, en fait, c'est mes parents qui travaillent avec moi dans cet atelier de bois et les gens du bois qui font tous les meubles. Mais je trouvais que c'était dommage, en fait, de ne plus continuer cet atelier.
Donc, c'est toi qui as créé la marque ou elle existait d'une certaine manière ?
Non, c'est moi qui l'ai créée. En fait, dans ma famille, ils ont toujours eu des marques. Mon père s'appelait du coup Hans Hansen. C'était toujours des marques très perso, toujours axées sur une personne. Et moi, comme je grandis en famille et qu'on a toujours travaillé en famille et que j'adore travailler avec mes amis aussi dans cet environnement de famille, je trouvais ça important que ça s'appelle plutôt The Hansen Family et pas Geza Hansen pour pouvoir toujours faire des collaborations facilement, de rentrer d'autres designers. Je trouve qu'il n'y a rien mieux que faire des collaborations, de toute façon.
C'est-à-dire ?
De travailler avec d'autres designers ensemble. Je trouve que c'est toujours par le hasard que tu crées des choses.
Tu ne veux pas avoir ta marque juste à toi ?
Non. Non, je trouve que je me limitais. Genre, ça sera limitante. On dit ça comme ça ?
Oui. Limitante ? Tu veux dire quoi exactement ?
En fait, je crois que si une marque a ton propre nom, les autres doivent toujours travailler.
Oui, je vois
dans
ce que tu veux dire.
Dans ton sens, mais si tu travailles sous une famille et tu dis ça, c'est l'environnement de confiance dans lequel on aimerait travailler ensemble, tu ouvres beaucoup plus pour que les autres peuvent mettre leurs idées aussi.
Et comment vous êtes organisée alors dans l'atelier ?
Il y a une bonne équipe de mecs qui travaillent le bois. Il y a mon père qui contrôle l'atelier et le stock. Il y a ma mère qui répond à toutes les choses clients. Retour, si jamais il y a un truc qui casse à la livraison, et qui gère toute cette partie-là, et ma belle-sœur aussi. Et mon frère, il fait d'autres productions, quand c'est des trucs un peu plus grands, ou pour l'intérieur design aussi.
Et toi, tu y vas souvent ?
J'y vais une fois par mois, surtout quand je fais des prototypes. Je reste une semaine pour faire les prototypes, parce que j'aime bien travailler le bois moi-même aussi. Et je suis pas du tout 3D, je suis vraiment designer analogue avec des dessins, des maquettes. Et du coup, j'aime beaucoup travailler avec mes mains. J'aime pas du tout le digital, je suis très old school.
Donc, ce sont beaucoup de meubles et objets en bois, on en parlait tout à l'heure. C'est quel type de bois ? Et je crois que c'est un bois qui est sourcé très localement.
Oui, exactement, tout est très local. C'est un bois certifié. Maintenant, des fois, j'ai l'impression que toutes les bois sont certifiées. Du coup, il faut vraiment y
pas
aller
encore.
Pour checker.
Ouais.
Mais je travaille toujours avec du bois local. J'adore la chêne parce que c'est une bois dure. On peut bien le travailler. Mais je commence à travailler aussi beaucoup avec la pin de Douglas, avec de l'orme. J'aime aussi d'autres bois. Mais je trouve que dans l'intérieur design, avec son dessin, la chêne, c'est le plus pratique. Parce qu'elle est très timide. Elle est très neutre. Pendant que d'autres bois ont un peu plus de caractère. Après, c'est plus dur à combiner.
Et qu'est-ce qui te plaît vraiment dans le bois ?
Tout me plaît dans le bois, l'odeur.
Parce que tous tes meubles et objets sont en bois, on est
oui.
D'accord.
Il n'y
a pas autre chose.
J'aime la façon comment ça se laisse travailler dans tous les sens, genre en tournant le bois. J'aime les dessins que ça fait à chaque fois, différents. J'aime l'odeur quand on travaille le bois. Ça, c'est peut-être pas normal, mais je crois que ça, c'est parce que je grandis avec. Et après, il y a tous les teintes qu'on peut y ajouter. En fait, c'est vraiment c'est un matériau incroyable. Et en plus, c'est vraiment écologique. Et du coup, ça, je trouve que c'est quand même le plus important aujourd'hui, que ça reste écologique.
Et donc, tous tes meubles et objets sont inspirés du design scandinave. Tu parles même de nouveau design scandinave. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui est nouveau ?
Il y avait un moment une vague de nouveaux designs scandinaves. C'était maintenant déjà il y a 15 ans, je crois que je dis ça. Parce qu'il y avait toutes ces nouveaux marques comme Norman Copenhagen, Mutu, Hay, qui se lançaient et qui donnaient un peu plus de jeu au design scandinave, ça devenait un peu moins sérieux, avec plus de couleurs, plus de liberté. Et moi, j'étais exactement dans cette vague d'utiliser un peu plus de couleurs aussi. Et après, j'ai vraiment ce problème que moi, quand je design, c'est toujours scandinave. Et là, quand je dessinais pour Pierre Frey, par exemple, il fallait quand même dessiner français. Et c'était un effort pour moi de sortir de la langage des formes scandinaves pour que ça ne fasse pas scandinave à la fin, mais que ça ressemble plus à un design français. Et je trouve ça incroyable comme c'est dans toi, dans tout ce... C'est très dur de se différencier.
Alors, et comment tu définirais le style français? Alors, tu parles du style français.
Ben, je crois, pour moi, quand j'ai dessiné la banquette, je suis partie, du coup, des designs très décorés français Louis XIV. Je trouvais ça le plus simple, hein, de partir d'une truc ultra français comme ça, et après de le minimaliser jusqu'au point où tu ne peux plus enlever des choses. Et du coup, c'est de là est née la banquette, avec les pieds sculptés dans le bois. Et du coup, ça a toujours un petit côté très décoratif, mais très minimaliste à la fois. Et pas du tout scandinave, hein, pour une fois.
Et qu'est-ce qui te plaît tant dans l'esthétisme du design scandinave?
Je crois que c'est juste que je grandis dedans. J'aime aussi beaucoup le design brésilien. J'aime beaucoup le brutalisme. J'aime beaucoup les designs japonais. C'est juste que ça sort naturellement de moi. C'est peut-être ma langage maternel, un peu. Après, quand j'essaye de dessiner dans un autre style, ça coûte plus d'efforts et c'est un peu plus étrange pour moi. Mais j'aime bien essayer, hein, mais c'est beaucoup plus dur.
Et tu sors régulièrement de nouveaux meubles ?
Oui, là je travaille sur un fauteuil qui sort dans 2 mois. Il faut que j'aille encore à l'atelier pour faire un nouvel prototype. Je voulais travailler sur un fauteuil que tu peux mettre devant la cheminée. C'est mon nouvelle envie, mettre un fauteuil devant une cheminée.
Et nous, on peut l'acheter ou tu travailles uniquement avec des professionnels pour ces collections ?
Ah non, tout le monde peut l'acheter. C'est ma mère qui va te répondre.
La commerciale.
Oui, et à Paris, on peut l'acheter à la trésorerie aussi.
Alors, tu es architecte d'intérieur aussi, puisque tu as fait ce restaurant, le Café Compagnon. Tu disais, tu as fait le 52, Faubourg Saint-Denis,
oui.
Dans une ancienne boucherie, la boutique Le Mont Saint-Michel, la nouvelle librairie Galerie Photo, la Une, l'hôtel Ami du groupe Orso, qui est très beau. On vient te chercher pour ce style, donc scandi minimaliste, un peu fonctionnel, où tu peux proposer aussi un autre éventail.
Je crois qu'on vient me chercher pour un certain minimalisme chaud, quand même. Parce que je ne suis pas aussi fou que certains d'autres designers que j'adore. Je sais que je reste toujours assez minimaliste. Mais c'est une bonne question. Pourquoi on me cherche? Parce que les nouveaux projets sur lesquels je travaille, là, ils ne sont pas scandinaves. Mais je crois qu'on me cherche pour la authenticité des matériaux, peut-être. Oui, j'ai dit ça.
Mais est-ce que ça t'amuse de travailler d'autres styles ou tu as envie de rester très scandinave, qui pourrait être ta signature? Ou tu préfères ne pas avoir de projet signé, tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois exactement. Ben, en fait, je me dis, Hôtel Ami, est-ce que ça te semble scandinave, Hôtel Ami?
Oui, toujours un peu, mais pas complètement.
Parce que je crois que j'essaye souvent de sortir de la coque scandinave pour faire autre chose, et je retombe dedans après. Alors, il y a toujours, c'est vraiment un DNA qui restera toujours comme une petite vague dedans. Et j'ajouterai des nouvelles inspirations d'ailleurs. Mais je crois que la colonne vertébrale, ça reste toujours ça, si je veux ou pas.
Et l'artisanat, c'est très important pour toi aussi. Tu fais beaucoup de sur-mesure?
Oui, beaucoup de sur-mesure et avec des gens que j'adore. Parce que du coup, j'ai vraiment cette chance de travailler avec cette équipe de bois depuis maintenant 20 ans. Oh, fou!
Ça ne nous rajeunit pas?
Non.
Et ta première collection, elle a remporté 2 fois, je le signale quand même, le prix international Red Hot et l'international Good Design Award du Chicago Athénaeum, qui est un musée sur l'art du design à Chicago. Ouais, ça t'a aidé, ça, à te faire connaître ou
Ça aide toujours, ça donne une certaine autorité. Je sais que là, j'ai gagné une nouvelle et je n'ai pas le droit de le dire parce que je crois que ça sort seulement le 20 juin.
Non, ça c'est moche de faire ça, de ne pas nous dire.
Mais je peux dire que j'ai gagné un nouveau. Ça aide toujours pour la notoriété quand même et ça fait toujours plaisir parce que tu as l'impression que tu es sur le bon chemin quand même. En fait, je trouve ça important, c'est une petite récompense sur le chemin, je dirais.
Qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier ? Quelle partie tu préfères ?
J'aime bien travailler vraiment le bois, ça c'est ma partie préférée. J'aime bien
manuellement,
échanger.
Manuellement, tu veux dire, dans
oui,
l'atelier ?
Exactement, quand je suis vraiment sur place.
Et qui t'a appris ce métier ?
Mon grand-père. Et j'aime bien parler avec les clients. J'ai la chance d'avoir des clients incroyables. J'ai beaucoup travaillé avec Marina Feuss, qui est ma cliente préférée.
Ah oui, donc tu fais du perso aussi, des particuliers.
Et elle a un goût incroyable. J'ai presque l'impression que c'est elle qui m'apprend des choses des fois. Parce qu'elle a cette goût italien, en plus, par sa famille, dans l'architecture, qui est vraiment génial. En fait, d'échanger avec tes clients, c'est vraiment important pour moi. Et après, sourcer des tissus chez Pierre Frey, je trouve ça incroyable aussi. Il y a vraiment tellement, tellement de choses. Le matin, je me lève, il y a mon cœur qui bat. Comme tu sais, quand tu es amoureuse. Et en fait, je me suis rendue compte que c'est mon travail qui fait ça. Mon mari aussi. Mais je me suis vraiment rendue compte que quand j'ai un nouvel projet, c'est vraiment cette excitation. Et j'aime beaucoup échanger avec les autres designers aussi.
Tu ne te sens pas en concurrence avec eux ?
Non, jamais. Parce qu'on n'a jamais le même style. Par exemple, j'aime beaucoup ce que Pierre Jovanovic fait. J'aime beaucoup cette personne. J'aime beaucoup les festaines. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi. Mais je trouve qu'on fait jamais la même chose de toute façon. Parce qu'on a toujours envie de faire un design sur ses propres expériences et inspirations. Et du coup, ça sera toujours différent que les autres. Et je trouve qu'il y a toujours... par exemple, moi, avec les boîtes tournées, cette forme, j'étais un des premiers. Et après, ça s'est retrouvé sur plein d'autres chantiers et objets en même temps. Et je trouve que c'est ça en même temps qui est bien, hein, de découvrir un truc et après ça se transforme dans autre chose. C'est toujours une transformation. Je crois que ça, c'est important aussi d'avoir en tête de pouvoir partager les inspirations. C'est important aussi, je trouve.
Quelles sont tes inspirations, toi ?
Quand j'ai vu Opus, ça m'inspire beaucoup. J'y vais presque tous les vendredis matin. Et
pour faire quoi ? Pourquoi tous les vendredis matin ?
Parce que tous les vendredis matin, il y a tous les designers qui y vont.
Oui, mais pourquoi toi, tu te dis que tu veux y aller tous les vendredis matin ?
Je trouve toujours des objets qui m'intéressent, que je ne comprends pas. C'est drôle parce que c'est souvent dans l'incompréhension que je m'inspire. Quand je vois un objet que je ne comprends pas tout de suite pourquoi il est comme ça, et ça amène un nouvel vocabulaire à ma langage de design, du coup. Et de trouver à chaque fois des nouvelles formes. Au plus, tu trouves des formes un peu autrement que dans les magasins d'aujourd'hui, en fait. C'est vrai que je ne m'inspire pas du tout dans les magasins. C'est vraiment dans le design ancien, et après de le transformer dans quelque chose de nouveau, c'est ça qui est intéressant.
Et tu achètes beaucoup de déco, toi, à titre perso, ou tu chines beaucoup ?
Je chine beaucoup pour des clients, parce que du coup, j'ai l'impression que ça fait plus écologique, parce que ça va quelque part. Parce que je trouve que l'écologie, c'est quand même un truc important dans notre travail, presque le plus important maintenant. Du coup, c'est vrai que au moins, si tu chines, c'est déjà quelque chose qui a déjà existé et qui ne va pas être créé nouveau, du coup. Ça, c'est toujours bien. Pour moi-même, je crois que j'ai tout ce que j'ai besoin, un peu. En fait, je n'ai pas envie de changer tout le temps ma déco. J'ai envie que ça reste... Je trouve que c'est que bon quand ça peut rester pendant les prochaines 20 ans, comme ça. Mmh. Du coup, les nouvelles chantiers, ça m'aide, parce que comme ça, je peux placer les choses. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui change souvent sa déco à la maison.
Où est-ce que tu te vois dans 15 ans ? T'aimerais faire... Est-ce qu'il y a des projets que tu aimerais faire ? Ou comment tu vois évoluer ta marque ?
J'aimerais bien faire plus des projets d'hôtels, restaurants, intérieur design, tout ça. J'adore créer des lieux où les gens s'amusent. J'aimerais bien travailler que local, en France, si possible, ou en Europe. Là, j'étais demandée pour une villa à Beverly Hills. Et en fait, je dis, ça fait aucun sens. Genre, je ne vais pas prendre un vol tout le temps pour aller voir un chantier s'il y a, par exemple, le Commune Design à LA qui va faire très bien le job. C'est pas comme si je suis... En fait, il y a tellement de bons designers à Los Angeles et je trouve ça, c'est important à dire aux clients aussi, de prendre des gens locaux aussi, pas que dans les matériaux, mais aussi dans les designers. J'ai regardé un truc sur Netflix, c'est des maisons chères où un agent immobilier disait « Ah là, ce bois, il vient de l'Asie. » Ils se sont vraiment cassés la tête pour trouver les matériaux. C'était pas au coin de la rue. Et moi, c'est tout l'inverse. Chaque fois que j'ai un jeune chantier, là je travaille sur un chantier dans les Alpes, c'est tellement important de trouver exactement les matériaux au coin de la rue et de les transformer à quelque chose de sublime. C'est ça qui devait être en fait le premier, comment on dit ça, le premier manifesto du designer intérieur. De rester le plus local possible. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec les bois à côté de l'atelier, c'est pour ça que j'aime bien sourcer les matériaux proches, et c'est pour ça que j'aime bien aussi sourcer les choses sur le marché de puces, parce que c'est vraiment la façon la plus écologique à travailler.
Alors, on entend beaucoup parler de toi en ce moment aussi parce que tu as créé avec trois amis un genre de, tu vas nous dire, de mouvement projet commun qui a été baptisé Countryfication, je vais le dire comme
oui.
ça, qui est grosso modo un partage d'expériences sur comment on change de vie quand on est une citadine qui vient s'installer à la campagne, ce que vous avez vécu toutes les trois. Enfin, raconte-nous l'histoire de ça.
L'idée me venait à l'esprit parce que je sentais quand j'étais à la campagne que j'avais d'autres envies d'un coup qu'à la ville. Et je trouvais ça intéressant parce que...
Parce que tu as acheté, on va faire l'intro, tu as acheté une maison de campagne.
Oui, ma copine Charlotte était déjà à la campagne. Et nous,
Charlotte Huguet.
Exactement. Et nous, on est allés la visiter. On a bu un café chez elle. On est tombés amoureuses de la forêt. Et le même jour, on a fait une offre sur une maison. Je ne m'attendais pas que ça change autant ma tête, mes inspirations que ça, en fait. C'est vrai qu'une fois qu'on était là-bas et maintenant que j'habite vraiment à plein temps là-bas, ça change complètement tous les envies qu'on a, sur les vêtements, sur le style de vie, sur les vitesses de la vie aussi. Mais moi, j'avais envie de faire cette livre pour rassembler toutes ces nouvelles envies et toutes ces choses que j'ai découvertes là-bas. Et c'était important pour nous de faire un livre avec, du coup, Estelle et Charlotte, trois filles qui ont fait ce déménagement à la campagne, et de faire un livre sur des filles qui travaillent quand même, parce que du coup, nous, on a tous les trois toujours les contraintes quand même de gagner d'argent, d'aller travailler. Du coup, on voulait montrer que c'est possible, même si tu dois travailler à Paris, que tu peux quand même déménager à la campagne. Et on voulait aussi montrer que tu peux même déménager plus loin, parce qu'il y a d'autres exemples... Des gens qui habitent encore plus loin et qui travaillent toujours quand même. On ne voulait pas montrer des maisons du week-end où les gens vont. C'était vraiment de montrer qu'est-ce que ça fait quand tu changes vraiment ta vie, quand tu habites vraiment là-bas. On voulait vraiment créer un livre où il y a des idées qui ne coûtent pas cher, qui sont des do-it-yourself, qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens. On a même une fille qui habite dans une cabane qui coûte 1 000 euros par an. C'est vraiment pour montrer que ce n'est pas une question d'argent. Et moi, j'ai toujours vécu à la campagne toute petite, sur une ferme. Et j'étais gardée par des fermiers toute la journée. Et je passais la moitié de ma vie enfant sur un tracteur, à travailler les champs, à tuer les poules aussi. Je sais exactement comment sortir tous les organes d'une poule et comment le plumer. Comme je grandis avec, ça ne me semblait pas horrible. Hein. Maintenant, j'ai un peu plus...
Maintenant, t'es qu'un restaurateur avec des cuisines pas loin et...
Exactement. Maintenant, je laisse les autres faire, par contre. Mais j'ai vraiment grandi avec mes mains dans la terre.
Donc, t'avais envie de retrouver ça. Pourquoi t'as fait ce choix d'être... En plus, ton mari travaille à Paris. Toi, t'es très sollicité aussi. Comment t'as fait la bascule maison de campagne et y vivre toute l'année?
Oui, parce qu'au début, c'était juste une maison du week-end et je sentais que je ratais des choses. Dans le jardin, dans la nature, et qu'à chaque week-end que je revenais, j'avais raté plein d'épisodes. Et j'avais l'impression que ça me calmait, que j'étais plus ancrée là-bas. Et j'ai fait beaucoup de cheval. Je n'ai jamais fait des leçons de cheval enfant. J'étais vraiment plus comme une gaucho. Je me suis mise sur un cheval et je galopais dans les champs. Mais du coup, de retrouver cette proximité avec les animaux, c'était important aussi. D'avoir un chien, je trouve ça très important de faire... 1h30 de balade tous les matins avec mon chien. Et pendant cette balade, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent. Et je suis vraiment beaucoup plus seule. Et je trouve, pour être créatif, il faut savoir être seule. En fait, il ne faut pas savoir être seule, il faut être seule. Parce que sinon, on ne peut pas créer. Et j'avais l'impression qu'il y avait trop d'animation, trop de choses avec qui je passais mon temps à Paris, qui me volaient ce temps. Et quand je suis à la campagne, pendant toute la journée, quand les enfants sont à l'école, je travaille et je ne fais que ça. J'oublie beaucoup de manger.
Est-ce que c'était un changement évident? Ça a été simple ou t'as fait face à des difficultés?
Mon mari m'a manqué beaucoup au début, de me retrouver seule là-bas.
Et parce que ton mari a gardé un pied à terre à Paris.
Exactement, pour pouvoir, parce qu'il rentre très tard. Et du coup, c'était vraiment un choix où on savait qu'on ne va pas se voir la semaine. Et du coup, au début, c'était drôle. Au début, j'avais beaucoup de vide. Je ne savais pas comment remplir ça. Je ne parlais pas avec beaucoup de gens. J'avais l'impression que quand je sortais de ma porte, c'était comme dans un western où tu vois les trucs de paille voler dans la rue. Et je me sentais seule au début d'être mère célibataire un peu avec les enfants, de gérer tout ça en plus de mon job. Et après, je me suis organisée pour, j'ai pris une fille au pair. Maintenant, je peux vraiment beaucoup travailler. Et je lis beaucoup plus de littérature. J'écoute beaucoup plus de littérature par audiobook aussi. J'ai l'impression que c'est la littérature qui a pris un peu cet espace de communication. C'est pas moi qui parle beaucoup, mais j'écoute beaucoup de gens parler, au moins.
Et quel conseil tu donnerais à des personnes qui sont tentées de parce qu'on est très nombreux depuis le confinement, les citadins ont tous envie de plus d'espace. Quel conseil tu donnerais à ceux qui sont tentés de changer de vie comme toi tu l'as fait?
J'ai ma voisine Christine, qui est aussi dans notre livre, qui a 80 ans, qui était interior designer à la base et qui a fait ce changement à la campagne très très tôt, après sa divorce. Et en fait, elle m'a dit, vous êtes la première génération où c'est réellement possible de faire ce changement à la campagne. Parce qu'on est tellement connectés, en fait, tu peux quand même faire des présentations sur Zoom, ça se fait de plus en plus. Si jamais j'ai une présentation en live, je peux aussi y aller comme aujourd'hui avec toi et moi ici. En fait, c'est vraiment possible maintenant parce que je crois que la société a accepté que tu ne peux pas toujours être là. Et du coup, maintenant, c'est devenu facile. Tous les gens qui ont fait ce changement disent, tu vas voir, c'est plus facile que tu penses. Et après, il y a des conséquences à prendre en compte. Genre, le chemin au travail va être plus difficile, comme ce matin quand j'ai raté un train. En fait, non, je n'ai pas raté un train. Le train a été annulé. Et du coup, tu as des contraintes qui vont faire que c'est plus dur et tu as des choses... C'est toujours un équilibre. Hein. Il y a des choses qui vont être plus dures et des choses plus faciles. Mais je trouve d'être dans la nature et finalement d'être seule et de ne pas avoir de bruit, et le soir d'être sur ta terrasse avec un verre de vin et de regarder les étoiles, c'est tellement un luxe aujourd'hui, en fait. Je trouve que le nouveau luxe, c'est vraiment d'être un peu seule. C'est horrible de dire ça.
Non, c'est pas horrible.
Mais de se trouver avec soi-même et de se sentir bien avec soi-même et de pouvoir aussi vraiment travailler sans être, comment on appelle ça en français, quand quelqu'un d'autre te dérange. Et en plus, j'ai 3 enfants, du coup, je suis quand même beaucoup dérangée. Hein.
Donc ça te nourrit personnellement et professionnellement?
C'est surtout professionnellement.
Ça ne te ralentit pas professionnellement d'être partie de Paris?
Non, je travaille beaucoup plus. Et ça m'a ralenti personnellement, par contre. Ça, c'est vrai, du coup, je suis contente quand il y a des choses à Paris, quand je vois mes amis... Il faut quand même être prête à être plus seule. Mais du coup, le temps que je suis plus seule, je suis plus productive.
Plus efficace, ouais. Quelle est ta définition du slow life? On en parle beaucoup, de la slow life.
Je ne suis pas très slow, moi. C'est vraiment quelque chose que tout le monde en parle. C'est vrai que moi, je me lève à 5 heures du mat pour pouvoir faire un peu de sport avant que les enfants se lèvent. 5h30 plutôt, parce que...
Waouh.
Mais du coup, après, j'amène les enfants à l'école. Après, je commence à travailler et je travaille beaucoup. Et après, la fille au père va les chercher, les ramène, il y a les dîners. Et après, je continue à travailler. Du coup, même si je suis à la campagne, ma vie n'est pas devenue très lente. Mais je comprends, il y a beaucoup de gens autour de moi à la campagne qui s'occupent beaucoup de leur jardin, qui ont un autre rythme, mais je ne suis pas là dedans. Des fois, j'aimerais bien, hein, mais... J'aime tellement mes projets, j'aime tellement mon travail. Tu pourrais être tentée de passer plus du temps dans ton jardin et de ralentir. Je crois que c'est un choix de ralentir. Moi ça m'a fait travailler encore plus parce que je suis quand même très communicatif. Et du coup, au début, c'était dur pour moi de pas pouvoir échanger avec beaucoup de gens. Mais en fait, ça qui est drôle, c'est que je suis plus dans les expos de Paris depuis que je suis là-bas.
Oui, tu profites plus de Paris. Souvent, c'est ce qu'on dit.
Incroyable.
Les Parisiens ne profitent pas forcément de Paris. Et quand tu t'en vas, tu reviens et tu refais ce que tu ne faisais pas sur place.
Oui, je ne le croyais pas. Et c'est exactement ça. J'ai vu toutes les expos. D'un coup, je suis allée beaucoup plus à l'Opéra. Et c'était facile quand même, parce que ce n'est pas si loin que ça. Et je crois que tu as plus soif, du coup, à faire ça. Parce que quand j'étais à Paris, je me dis la semaine prochaine. Et j'étais dans un rythme... beaucoup plus boire des cafés avec mes copines.
Donc le livre s'appelle Campagne et le compte Instagram
Countrification.
Countrification.
Oui, c'était vraiment juste pour créer.
Moi, j'allais te dire countrification.
C'est pour ça. Campagne, c'est plus facile. Mais c'était vraiment juste pour montrer à quel point ça fait du bien quand même de vivre à la campagne et de faire tous ces expériences. J'ai l'impression que au début, j'avais l'impression que la campagne le prend pas mal si je la vois pas pendant longtemps et que je devais plus faire des contacts à Paris et des conversations avec des gens. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse, que je rate beaucoup plus dans la nature qu'à Paris.
Et comment vous avez imaginé, enfin comment tu as aménagé, décoré cette maison? Est-ce qu'elle est très campagne ou pas forcément? Et comment on passe d'une grande maison qu'on n'habitait pas tous les jours à sa résidence principale?
Ah, c'est une bonne question. En fait, au début, je l'ai dessinée en très colorée, cette maison, parce que j'avais peur du style maison de campagne, un peu genre avec des poutres blanches et ce genre de choses. Du coup, je me dis, je vais lui donner un caractère un peu comme dans les images de Wilhelm Hammershøi, avec beaucoup de teintes bleues. C'est un peintre danois qui a peint beaucoup d'intérieur. Et on n'a pas beaucoup changé cette maison depuis. On y habite en plein temps. Juste, on apprécie beaucoup plus d'être là-bas. Mais tous les meubles étaient dessinés par moi parce que je trouvais ça drôle, en fait, de me dire que plus tard, mes enfants ont une maison où tous les meubles sont dessinés. Et du coup, chaque meuble... Ça a pris du temps de dessiner chaque meuble. Du coup, maintenant, elle est quand même prête, je trouve. Et ça qui est le plus important, c'est qu'on a une chambre d'enfant. C'est vraiment ça qui change tout. Parce que du coup, il y a une chambre dédiée à eux, où ils mettent le bordel, où ils sont tout le temps. Ça les rend extrêmement indépendantes parce qu'ils sont habitués de jouer là pendant des heures, pendant que moi, je travaille dans mon atelier au-dessus. Mais c'est vraiment une bonne maison pour recevoir des gens. On a des chambres d'amis et chaque pièce est dessinée autrement, avec une autre couleur. C'est vraiment un bon endroit pour recevoir du monde. On y est beaucoup à Noël. Il y a la famille de Charles, ma famille, la famille de mon ex-mari. Du coup, on aime bien genre, remplir la maison et de accueillir des amis aussi.
Et quelle est ta pièce préférée dans ta maison?
Ça dépend des saisons. En hiver, c'est devant la cheminée. C'est pour ça que je veux absolument dessiner cette chaise devant la cheminée. Parce qu'elle est quand même très froide en hiver. Et ça, il faut s'y habituer au début. En fait, une fois que tu t'es habitué, tu as des pantoufles moutons et des grosses pulls et ça va. Mais au début, j'avais très froid. Et en été, c'est plutôt le jardin, c'est tout ce qui est extérieur. Mais j'aime beaucoup ma chambre aussi. Parce qu'en fait, souvent, après que les enfants dorment, je continue à travailler dans ma chambre. Et j'aime vraiment beaucoup ma chambre. Il y a des rideaux dorés de pierres frais qui je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne un sentiment d'être tellement protégée et doux et chaud. Je crois que c'est une de mes pièces préférées.
Et tu as pu te créer un bureau, tu disais un atelier?
Oui. Oui, mon atelier, je l'aime bien aussi, mais mon atelier, c'est du travail. J'ai l'impression quand j'y vais, je sais que je vais y aller et rester et travailler et sortir toutes les choses qu'il faut. Tu sais, un peu par pression, pendant que quand je travaille dans ma chambre, c'est un peu libre. Souvent avec une verre de vin, du coup c'est un peu plus détendu.
Il y a toute une notion de transmission qui a l'air très importante dans ta famille et notamment avec The Hansen Family. Est-ce que toi, tes enfants, ils sont sensibles à tout ça?
Oui, je crois qu'ils sont très sensibles. Et déjà, je sens qu'ils sont sensibles aux matériaux. Ils font la différence entre les différents marbres, le bois. Je les vois toucher les matériaux beaucoup. Et ici, c'était la même idée au Café Compagnon. Je voulais rentrer la côté espagnol de Charles. Et son grand-père, c'était un grand sculpteur qui faisait des sculptures, mais incroyables en Espagne. Et en fait, rendre ce travail dans ce lieu, je trouve d'avoir quelque chose de ta famille en transmission dans ton design, ça rend une âme, ça fait une âme pour ton projet. Je crois beaucoup dans le Zeitgeist. Je crois que ça amène toujours un sentiment.
Tu crois beaucoup en quoi?
Tu sais, c'est le mot allemand Zeitgeist, genre cette Zeitgeist. Comment on peut expliquer ça? C'est juste un sentiment de l'espace à ce moment-là. Et je trouve finalement tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est une transmission de tout ce que notre famille nous a donné. Hein. Il y a beaucoup de mémoires d'enfants qui ressurgissent chez beaucoup de designers. Ils transforment ça dans leur travail d'aujourd'hui. Du coup, je crois tout le monde là. Moi, je les mets beaucoup en avance parce que j'ai l'impression, du coup, c'est leur valeur, par exemple, à ma famille ou au grand-père de Charles. que je transforme du coup à quelque chose de nouveau, mais c'est grâce à eux. Ou par exemple aussi le savoir-faire de travailler le bois, aussi tout le temps que je passais à la ferme. Toutes ces expériences que les autres gens m'ont données font que je suis inspirée par ce que je fais aujourd'hui. Ça fait du sens?
Mais c'est hyper clair, c'était un bonheur de t'écouter, Geza. Merci beaucoup.
Super, merci à toi.
Merci, au revoir.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.